un journal présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir. Quand trouvera-t-on un vaccin contre le nouveau coronavirus? On y est presque, assuré hier Vladimir Poutine. Hormis les Russes, tout le monde en doute. L'occasion de faire un point complet sur la course au vaccin et l'avancée des recherches. En attendant, pour se protéger, de plus en plus de villes ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les rues. C'était au tour de Bruxelles ce matin. La Belgique qui va également limiter les départs des trains vers ses stations balnéaires. Il y a trop de monde sur les plages. Dans les avions, en revanche, il n'y en a pas eu assez. Le plan de restructuration post-confinement d'Air France se fait dans la douleur. 7500 suppressions de postes prévues dans le groupe. Hop, sa filiale régionale va y laisser la moitié de son personnel d'ici 2023. Le CSE a lieu en ce moment même. Les syndicats s'expriment dans ce journal. Qui sera le premier à trouver le vaccin? La Russie a créé la surprise hier en affirmant être sur la bonne voie. Un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré, a déclaré Vladimir Poutine. Assez sûr de lui, au point d'affirmer l'avoir fait inoculer à l'une de ses filles. Ce qui n'a pas vraiment convaincu la communauté internationale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a immédiatement réagi en appelant à la prudence, rappelant que la préqualification et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures rigoureuse. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, sur les quelques 200 vaccins anti-Covid qui sont en cours de développement dans le monde, Tara, l'OMS recense 26 candidats vaccins qui ont commencé à être testés sur des hommes et non plus seulement sur des animaux. Et parmi ces 26, il y en aurait une poignée seulement qui approche la phase 3 des essais cliniques. Expliquez-nous.
Alors oui, comme le dit l'OMS, les procédures sont rigoureuses et normalement ça prend 10 ans. Alors d'abord, on vérifie la sécurité du vaccin sur un tout petit nombre de personnes quand on est aux essais sur les humains. Ensuite, en phase 2, on explore l'efficacité du vaccin sur des volontaires pour trouver les bons dosages et mesurer la durée de protection des anticorps. Et puis, c'est la phase 3, on élargit le test à des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus pour mesurer le bénéfice-risque de ce nouveau vaccin. Donc, en phase 3, il y aurait aujourd'hui 3 consortiums européens et 2 chinois en concurrence. Alors, si on commence par les avancées asiatiques, Pékin finance une compagnie étatique, Sinopharm, et une compagnie dite privée, Sinovac. Sinopharm a conclu un accord avec les Émirats Arabes Unis, dont le ministre de la Santé s'est d'ailleurs fait inoculer le vaccin lui-même. L'objectif est de tester ce vaccin chinois sur les 15 000 Émiratis qui seront volontaires et sans doute bientôt sur le marché brésilien. Et puis au Brésil, justement, en collaboration avec un institut de recherche, l'autre firme chinoise Sinovac doit débuter ses essais de phase 2, je dirais, puisqu'il s'agit de tester son vaccin sur 9 000 professionnels de santé brésiliens. Les Chinois avancent donc assez vite, mais étrangement, ils n'auraient pas encore beaucoup de débouchés commerciaux. Le Brésil, les Émirats et l'Indonésie seulement ont préacheté des doses de vaccins chinois.
Alors, voilà pour la Chine, Tara. En Occident, où en sont les choses?
Alors, on parle de consortiums, d'alliances qui sont à l'œuvre en Europe et aux États-Unis. D'un côté, il y a l'allemand BioNTech qui s'est associé avec le chinois Fosun Pharma d'un côté et l'américain Pfizer de l'autre. Dans les deux cas, ils développent le même vaccin, mais il n'en est pas exactement au même stade. En Chine, le premier vaccin serait testé sur 100 volontaires depuis le 5 août. Et aux États-Unis, les résultats sur 45 patients étant concluants, la phase 3 de test sur 30 000 personnes pour ce vaccin donc allemand et chinois en même temps et américain devrait débuter fin juillet. L'administration américaine a mis le paquet sur ce projet BioNTech Pfizer à hauteur de 1,9 milliard de dollars. Trump a donc préempté 100 millions de doses quand elles seront prêtes. Et puis il y a une autre alliance, l'alliance entre l'université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca. Leur vaccin est testé au Brésil sur 5000 volontaires depuis la fin du mois de juin. Des bons résultats ont été publiés le 20 juillet. La phase 3 doit débuter, dit-on. Ce consortium a signé des contrats avec l'Allemagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, les Américains. Et il serait en discussion avec le Japon et la Russie.
Et alors, évidemment, en France, est-ce qu'on est dans la course, Tara?
Alors, indirectement, oui. Notre Sanofi travaille en collaboration avec le laboratoire britannique GSK et avec l'américain Translate Bio sur 2 pistes différentes. Cette fois. Les résultats sont prometteurs, ils ont été publiés fin juillet et on sait que la BARDA, l'agence du ministère de la Santé américain, a signé il y a déjà plusieurs mois un accord financier avec Sanofi GSK qui avait défrayé la chronique pour que les Américains bénéficient en premier du vaccin. Et puis il y a une autre entreprise, Moderna, qui est une petite biotech présidée par un Français mais basée aux États-Unis que Trump a gratifié d'un investissement de 1 milliard de dollars fin juillet, qui travaille cette fois sur un ARN messager pour faire un vaccin. C'est un principe novateur. ventilateur qui n'a encore jamais débouché. Mais les chercheurs de Moderna y croient vraiment. Et là, l'essai clinique de phase 3 pour ce vaccin Moderna a débuté sur 30 000 volontaires aux États-Unis.
Merci Tara pour toutes ces précisions. Tara Schlegel, je rappelle, vous êtes notre spécialiste santé à la rédaction de France Culture. À Paris, dans certaines rues, dans la vieille ville d'Annecy, dans le centre-ville de Bordeaux aussi, le port du masque est devenu obligatoire. Bruxelles s'y est mis ce matin. Le port du masque est désormais donc obligatoire. Une décision prise en raison des chiffres de contamination qui ne cesse de grimper. La capitale belge a dépassé le seuil des 50 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Il y aurait également trop de monde sur les plages. La Belgique va limiter le nombre de trains qui partent vers la mer. Les détails avec notre correspondant à Bruxelles, Jérémy Audouard.
Les personnes de 12 ans et plus doivent donc désormais porter le masque partout en région bruxelloise, que cela soit dans les espaces publics ou les lieux privés accessibles au public. En cas de non-respect, la police peut infliger une amende de 250 euros. Alors il y a tout de même des exceptions, pas besoin de masque par exemple si l'on fait du sport, pour un travail intensif à l'extérieur ou encore pour certaines personnes en situation de handicap. Pour faire face à ce rebond de l'épidémie, l'État belge a pris une décision qui crée une certaine polémique ici. Le nombre de trains qui mènent vers le littoral de la mer du Nord va être limité. Le but est d'empêcher l'afflux de touristes car certaines stations balnéaires risquent tout bonnement la saturation. La gauche s'inquiète d'une discrimination sociale tandis que les nationalistes flamands saluent cette mesure. L'État belge trouve ainsi un moyen d'éviter des tensions car samedi dernier, une bagarre a opposé des jeunes bruxellois à des policiers. Motif, les espaces à la plage sont limités, ce qui crée des problèmes quand la mer monte. L'altercation a d'ailleurs débuté lorsque la police a demandé à des vacanciers de quitter les lieux car les distanciations sociales n'étaient plus respectées. Cette limitation des trains va entrer en vigueur dès ce week-end alors que les fortes chaleurs vont persister.
Le choc est rude pour le Royaume-Uni. Selon les chiffres publiés ce matin par l'Office national des statistiques, l'économie britannique a subi au deuxième trimestre une contraction record de 20,4%. Le pays est confronté à sa pire récession jamais enregistrée, précise l'ONS. Le Royaume-Uni signe la plus mauvaise performance au deuxième trimestre en Europe devant l'Espagne et bien pire que la France, moins 13,8%. Conséquence évidemment de la crise, tous les secteurs d'activité sont touchés, mais c'est la construction qui est le plus pénalisée au Tsoufi.
Sous 35 degrés, le travail continue. La chaleur n'a pas arrêté ce chantier, mais le coronavirus a changé les choses. Moins de commandes et sur les sites de construction, des mesures qui ralentissent l'avancée des travaux. Barry est chef de projet.
Nous avons démarré lentement, avec des heures de démarrage décalées et un petit nombre de sites. Afin de permettre à chacun de s'adapter à une nouvelle façon de travailler, nous avons augmenté progressivement le nombre de sites chaque semaine.
Le BTP avait déjà connu un mauvais premier trimestre au Royaume-Uni. Le confinement, très long, a mis beaucoup de chantiers sur pause. La reprise a été timide et progressive, ce qui explique l'effondrement de près de 35% dans ce secteur. Ronnie Savage, directrice générale de Jomas Associates.
Nous avions un bon plan de croissance jusqu'à février-mars et le confinement et le coronavirus sont arrivés. Du jour au lendemain, nous avons vu une réduction de 50% de nos projets qui ont été arrêtés. On venait juste de se remettre de l'incertitude du Brexit et on se remettait tout juste sur pied et ça nous est tombé dessus.
Dans son plan de relance de 30 milliards de livres présenté le mois dernier, le gouvernement a notamment prévu près de 6 milliards de dépenses en infrastructures. Mais ce ne sera sans doute pas suffisant pour sauver le BTP de la crise qui touche tous les secteurs de l'économie britannique.
La direction a beau dire qu'il n'y aura pas de départ contraint, c'est quand même très difficile à entendre et à vivre. Chez HOP, la filiale régionale d'Air France, on vit en ce moment un comité social et économique sans précédent. Près de 1000 postes vont être supprimés d'ici 2023. C'est en tout cas ce que prévoit la direction. Cela représente la moitié du personnel. C'est évidemment la conséquence directe du confinement et de l'épidémie. Les sites de HOP, de Morlaix, de Lille et Orly sont voués à la fermeture. Ce plan est évidemment inacceptable pour les syndicats. Maxime Fayol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous les avez joints cet après-midi.
Oui, et c'est une première journée de CSE assez houleuse, si l'on en croit Marc Fradet du syndicat Flight Union Cockpit, quand on lui demande comment ça se passe en ce moment.
Très 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 mal, dans la mesure où la direction, à notre sens, alors, c'est une volonté stratégique de nous épuiser, où ils prennent ça très à la légère, c'est-à-dire que ils tronçonnent les journées, et à chaque fois les journées ne suffisent pas pour arriver au bout de la présentation.
Et il faut dire que le plan présenté est assez costaud, vous l'avez dit, 1007 suppressions d'emplois, concentration des activités sur Roissy et Lyon uniquement, et il y a peu d'espoir de réduire la voilure de ce plan, estime Joël Rondel, délégué CGT chez HOP.
On montre à notre direction qu'on est déterminé, mais ça va être très très compliqué, ouais. On a encore plein de moyens de pression et on va utiliser tous les moyens juridiques mis à notre disposition, bien sûr. Air France, à un moment, devra nous respecter et devra accueillir des salariés au niveau d'Air France en reclassement. Que ce soit chez les pilotes, chez les PNC ou les salariés du sol.
Autre crainte chez Marc Fradet, c'est même à moyen terme la disparition totale de la compagnie.
Air France a commandé des A220, entre 130 et 150 places. Ils pourront facilement remplacer les modules de HOP demain à Charles de Gaulle par les nouveaux modules A220 qui vont arriver à Air France en 2023-2024. Je vois mal HOP perdurer au-delà de 2023-2024.
Et justement, 2023, c'est jusqu'à cette date que court le plan social pour l'emploi présenté aujourd'hui et demain par la direction.
Merci Maxime Fayolle. L'alerte rouge canicule est levée, n'empêche qu'il fait chaud et ces vagues de grande chaleur sont devenues un phénomène récurrent ces dernières années, pénible à vivre et particulièrement en ville où la rénovation thermique des appartements se fait attendre. On en parle, on nous la promet, mais on ne la voit pas vraiment venir. La fin des passoires énergétiques que sont nos appartements. Non seulement on est en retard, mais les matériaux utilisés aujourd'hui seraient donc hautement polluants. Éric Motz est architecte à Paris dans le 10e arrondissement. Il signe aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer une situation qualifiée d'ubuesque, c'est-à-dire l'utilisation massive de matériaux d'isolation, dont la fabrication est très émissive de CO2, et c'est-à-dire qu'elles produisent beaucoup de gaz à effet de serre, et puis évidemment une composition qui est souvent à base de pétrole, on l'écoute.
Il y a ce qu'on constate de manière empirique sur des chantiers qui sont assez systématiques sur l'inflation de produits très émissifs. Et il y a des études qui commencent à sortir, notamment vous avez une agence d'État qui s'appelle la CEREMA, qui a fait une étude avec EDF sur le département d'Alsace où ils ont constaté qu'en fait le matériau qui est le plus utilisé pour des raisons économiques, c'est le polystyrène par exemple. Donc le polystyrène en isolation par l'extérieur, donc qui est appliqué sur les façades. Or, le polystyrène, c'est un produit d'abord qui vient directement du pétrole. Il faut à peu près une tonne de pétrole pour faire une tonne de polystyrène. Donc, vous confortez une filière ultra émissive. Et pour construire industriellement une tonne de polystyrène, vous émettez 2,8 tonnes de gaz à effet de serre d'équivalent dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est accroître les émissions de gaz à effet de serre en surisolant nos bâtiments.
Et donc, comment on arrive à cette situation qui semble assez ubuesque, finalement, l'inverse, quelque part, de l'objectif annoncé, de vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre en isolant mieux les bâtiments, tout en utilisant des matériaux qui consomment énormément de carbone?
Je pense pas qu'on puisse considérer que cette politique soit une politique environnementale, c'est une politique de relance industrielle, c'est une évidence. On a une inflation d'activité, une inflation de produits industriels qui sont mis en place. Ça va être une réussite industrielle. Mais on peut questionner la pertinence environnementale de ces mesures.
Éric Motz répondait à Sophie Delpont. Les réseaux sociaux multiplient les efforts pour lutter contre la désinformation et les ingérences étrangères cet été. Dernière initiative en date, celle prise par Twitter la semaine dernière, qui a décidé de signaler aux internautes les comptes de médias liés à des puissances étrangères. Les chaînes russes RT et Sputnik sont ciblées, ainsi que CCTV, la télévision publique chinoise. Twitter a aussi décidé de réduire leur audience sur son réseau. Des chaînes qu'Emmanuel Macron, souvenez-vous, avait qualifié d'organes de propagande en 2017. Mais peine perdue, estime Kevin Limonier, professeur à Paris 8 et spécialiste de la Russie. Il estime que ces médias ont atteint leur objectif, se respectabiliser et s'imposer dans le paysage médiatique français.
Dans l'espace francophone, oui, ils ont clairement réussi leur pari de respectabilisation. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'infléchissement de la ligne éditoriale de ces deux médias, qui, depuis quelques années, sont beaucoup moins combatifs, beaucoup moins vindicatifs. Ils n'ont plus besoin d'en faire des tas, comme ils faisaient au début, pour acquérir de nouveaux lecteurs ou de nouveaux followers. Et aujourd'hui, on voit bien que les narratifs qui sont produits par Sputnik, par exemple, sont des informations que vous pourriez dans la plupart du temps, retrouvés à peu près partout. Et puis après, vous avez les médias russes dans l'espace anglophone, où là, on est sur quelque chose de beaucoup plus vindicatif, de beaucoup plus combatif. Par exemple, Sputnik International et Sputnik en anglais, en fait, hein, est une véritable machine à fake news. Ce que Sputnik France ne fait plus et n'a pas beaucoup fait, en fait, dans son histoire. Parce que l'appareil diplomatique russe et la diplomatie publique russe sont traditionnellement beaucoup moins virulentes envers la France qu'envers les pays anglo-saxons, qui sont véritablement vus comme des adversaires, alors que nous sommes vus comme des possibles partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, leur notoriété est faite. Ce genre de décision, il aurait peut-être fallu les prendre il y a 3, 4 ou 5 ans, à l'époque où effectivement les gens ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, bon, c'est vraiment essayer de dévier le cours d'un fleuve en jetant des cailloux dedans, vous voyez.
Une interview à retrouver et à lire en longueur sur franceculture.fr.